12e et dernière émission de la série Histoire de la radiodiffusion. Nous avons vu dans les précédentes émissions la diversité des structures, la diversité des programmes de la radio. Nous allons voir aujourd'hui qu'avec les nouvelles technologies, on retrouve une très grande diversité. Pour traiter de ces problèmes, Jean Charron, maître de conférence à l'IUT, responsable de la presse audiovisuelle dans l'IUT, nous a rejoint.
Alors, cette dernière émission de l'histoire de la radio, finalement, va être une émission aussi qui va parler de prospective, puisque c'est l'histoire future de la radio que l'on commence à évoquer ici, avec les innovations technologiques. Alors, innovations technologiques qui sont déjà réelles pour certaines, le RDS, par exemple, qui a 10 ans à peu près maintenant, fonctionne.
Oui, en gros, oui, 10 ans. Enfin, l'ancêtre du RDS, c'était Operator, ATDF. En fait, c'était la radio-messagerie qui était superposée aux porteuses de France Inter, Europe, RTL, que personne ne le connaissait.
Et l'intérêt du RDS ?
Alors l'intérêt du RDS, ça veut dire Radio Data System, c'est l'utilisation des sous-porteuses pour glisser des données numériques, c'est-à-dire qu'on va glisser des informations. Et la première que tout le monde connaît, c'est l'identification de la station. Et la poursuite automatique de cette station lorsqu'on roule, c'est-à-dire si on fait un trajet Bordeaux-Paris, si on écoute France Inter, on n'a plus à toucher son autoradio. Le RDS permet un suivi permanent de l'émission.
Oui. Il y a d'autres possibilités aussi, comme le TMC, Trafic Message.
Alors voilà, oui, une des dernières nouveautés qui vient d'être mise en place récemment, hein, parce qu'on savait l'appliquer, c'est la position trafic, hein, c'est-à-dire qu'automatiquement, le RDS est capable de gérer votre autoradio, c'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute d'une cassette, d'un compact disque pour les derniers récepteurs radio, automatiquement, vous avez une information sur le trafic routier qui arrive à un niveau supérieur à votre écoute. Et automatiquement, vous êtes informé. Il existe, ou il va exister, ce qu'on appelle l'audio-marquage. Et ça intéresse peut-être les gens qui font de la radio, qui fabriquent des programmes. C'est qu'on va maintenant coder toutes les plages musicales, tous les programmes. Et à distance, on pourra éplucher le contenu d'un programme. Alors, certainement, ça présente de l'intérêt pour ceux qui surveillent les ondes. Je pense en particulier à la SACEM, qui pourra lister automatiquement tout ce qu'une station a diffusé sur 24 heures, 8 jours, 1 mois.
Donc, ce RDS, qui a à peu près 10 ans maintenant, on estime, selon Médiamétrie, que 15-16% des foyers français sont équipés d'un récepteur RDS, mais déjà on parle d'autres formes de diffusion radiophonique, surtout le DAB. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors le DAB, c'est de la diffusion numérique par émetteur terrestre, c'est celle qu'on va connaître dans peu de temps. C'est aussi la diffusion numérique par satellite, qu'on ne connaît pas encore, et la diffusion numérique par câble. La diffusion numérique, c'est-à-dire c'est une diffusion qui supprime tous les bruits qui sont inutiles à l'information. Donc à partir de là, le DAB fait appel à deux procédés techniques. Un procédé de compression qui s'appelle le Musicam, qui est comparable à la qualité des disques compacts. Et le Digicast, qui est un second procédé, c'est un procédé qui annule les distorsions, les échos que l'on rencontre souvent dans la transmission en modulation de fréquence lorsqu'on se déplace. Donc à partir de là, le DAB, c'est une diffusion sur une bande qui n'est pas encore connue pour nous, profane, c'est la bande des 1,5 giga. Elle se situe, on va dire, au-dessus des radars de l'aviation civile. Et cette bande peut accueillir 9 blocs. Je parle en bloc ou ensemble, car on va regrouper sur une même porteuse 5 émissions différentes. L'exemple que l'on peut citer, Radio France diffuse France Culture, France Musique, France Inter, France Info et éventuellement le régional de Radio France. La radio locale. Donc on peut imaginer qu'il y aurait un bloc Radio France où on irait chercher l'information qui nous intéresse.
L'intérêt du DAB, c'est donc un gain en qualité musicale ou audio. C'est aussi la possibilité d'avoir des données liées à au programme audio.
Oui, on a qualifié le DAB de radio illustré. Ça veut dire que c'est une ouverture qu'on ne maîtrise pas pour l'instant. On parle un peu dans le vide. C'est de nouveaux services que la radio peut offrir. C'est-à-dire, on peut imaginer faire circuler de l'information en permanence sur un écran. Dans une voiture, ça peut être un peu dangereux, sauf aux places arrière. Mais on peut très bien faire venir des informations qui sont liées étroitement au programme de diffusion. Alors on cite toujours la couverture, enfin la pochette du disque, l'auteur de tel livre, et ainsi de suite.
Des
informations routières, mais ça, il y avait déjà d'autres procédés qui existaient. Hein. Mais également, un peu pour revenir sur Opérator, on peut également glisser des messages personnels. Qui sont adressables directement
à un auditeur.
Voilà,
alors,
pardon.
C'est effectivement des progrès dont on parle beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème économique derrière ce DAB dont les récepteurs qui apparaissent effectivement actuellement sont quand même encore assez chers?
Oui, si on peut donner le coût actuel, je crois que les premiers récepteurs avoisinent entre 5 000 et 6 000 francs. Mais ce sont les premiers et on peut imaginer que dans 4 ou 5 ans, ils ne coûteront plus qu'entre 1 000 et 1 500 francs. Donc le coût économique tombera. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que le DAB va supposer une infrastructure lourde pour couvrir une portion de territoire. On peut le comparer au GSM, c'est-à-dire qu'on va revoir certainement pas mal de pylônes pour couvrir une zone qui est plus large souvent que la ville.
Alors on parle du DAB terrestre actuellement, mais le DAB par satellite aussi est en prévision. Alors le satellite, c'est une autre forme de diffusion de la radio. Le satellite a été associé depuis longtemps déjà à la radio,
oui,
mais aujourd'hui on parle d'une on parle d'une, d'une radio par satellite à réception directe.
C'est-à-dire le World Space, c'est-à-dire il va y avoir une diffusion directe associée à un lancement futur d'un satellite. Mais là aussi, il faudra un récepteur propre à la fréquence dédiée qui doit tourner certainement aux alentours de 1,5 giga.
Et le récepteur prévu par World Space a cette particularité d'avoir une petite fenêtre visuelle pour des textes ou des images fixes.
Voilà, et à nouveau la radio illustrée, donc, qui permettra aussi de recevoir des messages écrits ou quelques images visuelles. Le projet World Space pose le problème, effectivement, encore de la mondialisation de la radio, de l'implantation des services radio, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, et c'est aussi quelque chose qui est derrière le projet de numériser les ondes moyennes, les ondes courtes. La vieille diffusion en modulation d'amplitude pourrait retrouver une seconde jeunesse avec ce projet numérique.
Oui, ça s'appelle la Digital Radio Mondiale, DRM. C'est en fait, on utilise le support des ondes moyennes et des ondes longues, des débuts de la radio, et on va numériser ces ondes en essayant d'apporter une qualité qu'elle n'avait pas jusqu'alors, c'est-à-dire vont se rapprocher d'une qualité FM, et à partir de là, les gens ne seront plus dépaysés lorsqu'ils reviendront sur leur récepteur. Mais ce qu'il faut dire, surtout au niveau mondial, l'intérêt, d'ailleurs les gens qui ont créé le DRM, en tête, il y a la Chine, il y a également la Voix de l'Amérique, il y a la France avec RFI, il y a la Deutsche Welle, je crois qu'il y a également la BBC. Les gens qui font de la diffusion mondiale ont d'énormes problèmes en ondes courtes, car ils ne peuvent pas piloter le récepteur de l'auditeur. Or, on sait qu'en ondes courtes, pour suivre une émission, on est obligé tout au long de la journée de changer de fréquence. Avec l'apport du DRM, donc du numérique sur ces ondes, et d'autres systèmes, en particulier le RDS, on saura piloter, on saura gérer le récepteur de l'auditeur. C'est-à-dire qu'on pourra très bien, à distance, envoyer des trains d'informations qui, s'ils ne sont pas décodés sur une fréquence, iront automatiquement, piloteront le récepteur pour aller chercher la même information sur une autre fréquence. Et à partir de là, l'audition sera meilleure pour l'auditeur.
Donc, effectivement, une poursuite finalement des vieilles technologies à travers les nouvelles technologies. On a dit que la radio serait forcément numérique parce que c'est la convergence de tout l'audiovisuel actuellement vers cette technologie numérique. On a dit que le numérique, ça serait finalement la bretelle d'autoroute qui permettrait à la radio, enfin la bretelle qui permettrait à la radio d'emprunter les nouvelles autoroutes de l'information et de rester sur ces autoroutes de l'information. Il y a des métissages technologiques et notamment des rencontres entre Internet et la radio aussi.
Oui, Internet et la radio. Moi, j'ai découvert la radio sur Internet. On a eu une expérience à Bordeaux, c'est la station 8FM.
8FM qui, en janvier 1996, a été la première station européenne à offrir l'ensemble de son programme en simultané sur Internet.
Alors ça, c'est un type de radio, parce qu'il y a effectivement des gens qui diffusent en permanence le contenu de leur programme. Il y en a d'autres qui, en fait, distribuent ces contenus à la demande. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une information, et c'est certainement une des vocations d'Internet, c'est aller chercher une information qu'on a, on va dire, ratée à telle heure. Je pense à RFI, qui a un service spécialisé, où on vient se raccrocher sur un programme qui a déjà été diffusé, pour connaître le contenu du journal en français à destination de l'Afrique, ainsi de suite.
C'est en tout cas quelque chose qui progresse très vite, puisque 8FM, pour reprendre cet exemple, a été imité assez rapidement. Et au niveau mondial, c'est à peu près 1500 services sonores. Alors, s'agit-il de radio, s'agit-il de banques de données sonores qui sont disponibles maintenant sur Internet. C'est quelque chose qui est aussi... Internet est aussi utilisé par les radios pour se faire connaître, et beaucoup de radios, sans diffuser leur programme sonore, ont un site Internet pour faire connaître leur programme.
Et dialoguer avec l'auditeur.
Et puis aussi, c'est quelque chose qui leur permet effectivement de donner aussi des informations liées au programme, paroles, des chansons, images des interprètes, par exemple.
Je crois que l'intérêt d'Internet pour un auditeur, c'est de pouvoir dialoguer avec sa station favorite. Mais là, le gros problème actuel, c'est quand même une histoire de débit. C'est-à-dire qu'écouter en permanence sur son ordinateur une station de radio, je n'y crois pas.
C'est un problème de coût aussi, puisque ça devient une radio payante, puisqu'il faut payer l'équipement qui est assez cher, et puis surtout la communication téléphonique. Par contre, aux États-Unis, où les communications téléphoniques locales sont gratuites, effectivement, ce système de diffusion par Internet a un gros succès. Et ça pose effectivement la question aussi, est-ce que le contrôle des radios locales par rapport à une radio nationale ou radio mondiale sera possible demain grâce à cette diffusion qui part dans tous les sens.
Ça, je crois que c'est le rôle du CSA qui doit étudier cette nouvelle législation.
Finalement, on boucle en quelque sorte la boucle, puisque nous avions commencé cette série par l'importance primordiale de la technique au tout début de la radiodiffusion, de la TSF, et nous trouvons actuellement que les renouvellements techniques ouvrent de nouveaux aperçus aussi à la radio de demain. Et la radio de demain qui, à la fois, subit en quelque sorte une mondialisation de plus en plus poussée, mais de plus est aussi une radio de proximité. Cette mondialisation, elle apparaît depuis longtemps, mais elle apparaît de plus en plus dans les chiffres. Si on songe que l'estimation la plus plausible est actuellement d'environ 2,28 milliards de postes de radio pour un peu moins de 6 milliards d'habitants, presque deux fois plus que la télévision dans le monde. Et dans beaucoup de pays, la radio reste non seulement le média le plus répandu, mais pratiquement le seul mass-média. Et encore, un certain nombre de pays d'Afrique n'ont que quelques milliers de postes de télévision face à des centaines de milliers de postes de radio. Alors, cette mondialisation de la radio, qu'on voit dans la technique, qu'on a vu dans les structures précédemment, elle est aussi amplifiée peut-être par une meilleure connaissance que l'on a des audiences.
Les audiences, oui, qui sont cruciales dans la mesure où ces nouvelles technologies, il faudra les financer. Et les deux seuls moyens qu'on a pour financer la radio actuellement, c'est les aides gouvernementales, l'investissement public, et puis la publicité. La publicité, ce qui suppose une connaissance parfaite des audiences. Alors, actuellement, on travaille beaucoup sur des méthodes d'audience, de mesure d'audience passive, qui permettrait, comme l'audimat en télévision, de mesurer plus précisément l'audience des chaînes de radio. Il y a notamment un système suisse qui est à l'étude actuellement, où un panel d'auditeurs serait équipé d'une montre qui recevrait l'ensemble des signaux sonores qu'ils écoutent et qui couplé à un système informatique d'ordinateur pourrait reconnaître indépendamment de l'auditeur ce qu'il écoute véritablement. Un mouchard en quelque sorte, ce qui ne va pas s'en poser des problèmes d'éthique aussi.
Et alors, un des aspects les plus nouveaux, les meilleures connaissances de l'audience d'ailleurs le révèlent, c'est aussi que la radio pendant longtemps a été une radio instrument des gouvernements. Or, actuellement, à la fois avec la tendance à la mondialisation, par exemple les radios internationales qui, en s'équipant en FM dans un grand nombre de pays, ont amplifié énormément leur audience. De notre côté, la radio étant davantage un instrument de proximité, notamment avec la libéralisation à laquelle La plupart des pays, y compris dans les pays du tiers-monde, ont dû plus ou moins se résoudre. Se pose le problème des radios nationales, des radios publiques, de leur définition, de leur survie.
La définition de l'ère de diffusion d'une radio va devenir de plus en plus floue, comme on l'a vu avec la technologie. Comment différencier une radio locale demain d'une radio qui pourra être entendue à l'autre bout du monde par les différentes technologies ?
Alors, il n'empêche que la radio conserve à l'époque de la télévision et de la vidéo un certain nombre d'atouts de caractère qui expliquent au fond son maintien, sa pérennité, son rajeunissement même.
Ces atouts qu'on peut résumer peut-être à travers 5 mots, rapidité. Ça reste un média extrêmement rapide dans ses réactions, sa consommation, mobilité. La radio qui est surtout écoutée finalement encore sur les postes transistors mobiles ou sur les autoradios permet d'accompagner les gens dans leur activité. Modicité, la radio reste un média peu cher, accessible au plus grand nombre. Simplicité. Aussi, autre mot clé de la radio, puisque c'est un média simple d'accès, d'utilisation et de plus en plus simple de fabrication, finalement. Et puis, dernier mot, peut-être diversité.
Un des aspects les plus flagrants, peut-être, de cette diversité, c'est que, à côté des professionnels de la radio, de plus en plus, il peut y avoir aussi une participation d'auditeurs et on retrouve. Là encore, un peu, un caractère du début de la radio où il n'y avait pas des auditeurs, mais des sans-filistes, c'est-à-dire des gens qui participaient, y compris à la prise technique du son. Actuellement, ce problème est dépassé sur le plan l'auditeur qui n'a plus à se soucier tellement du réglage technique, mais par contre, qui veut avoir accès au micro pour le meilleur et pour le pire.
Tous ces éléments prouvant donc la vitalité encore de la radio, de ce média qu'on a qualifié de vieux, dont on a retracé l'histoire au cours de ces 12 émissions et dont on voit le futur aujourd'hui.
Tout juste un peu de bruit. juste un